Chers amis, je suis le frère Isaïe. Comme vous l'avez appris, donc nous sommes obligés à continuer notre cours de cette manière, par enregistrement. Jusqu'à maintenant, la plupart d'entre vous suivaient le cours en présentiel. C'est toujours difficile d'enregistrer seulement. Quand je vous parlais en présentiel, j'avais bien un enregistreur, mais c'était pas pareil. J'avais des visages en face de moi. J'essaie de me souvenir de vos visages et de vous parler donc de ce que nous avons commencé à faire, et en essayant de continuer, même c'est pas un essai, mais on va continuer. Si vous l'avez vu dans les messages que vous avez reçus, nous allons essayer aussi de mettre en place, si tout marche bien, un échange de manière orale face à vos questions, vos suggestions, voilà. Tous ceux qui peuvent participer, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent pas le faire peuvent m'écrire à l'adresse que j'ai laissée, que je vous ai envoyée, à travers laquelle je vous ai envoyé le message pour vous avertir que le cours continuait à être donné, mais par le moyen de l'enregistrement. Donc, je nous remets dans le contexte qui est le nôtre. Nous avions commencé donc à parler du mariage, vous vous rappelez, et nous avions sondé la question de l'évolution historique du mariage, notamment, je le rappelle très brièvement, l'importance du mariage, surtout dans son acception originaire propre au Nouveau Testament et à la parole de Jésus, donc celle d'un mariage qui, tout en reprenant des formes de la culture ambiante, donc un mariage coutumier, familial, surtout dans le monde juif ou gréco-romain, pour les chrétiens devient un mariage dans le Seigneur. L'expression est de Paul dans une de ses lettres. Et puis nous avons vu comment peu à peu le mariage, surtout à partir du tournant du XIe siècle, va devenir un acte de l'Église. Disons, l'Église va prendre position face à ces mariages qu'on appelle clandestins à l'époque médiévale, et donc pour répondre aux abus qui avaient lieu, essaie d'organiser un mariage qui assure l'aspect public de l'union entre un époux et une épouse, d'où le mariage, si vous reprenez le plan du cours que j'avais distribué, un mariage célébré in facie ecclesiae, en face de l'Église, et le Concile de Trente donc va effectivement retenir ce type de démarche et va le structurer, le fixer dans un rituel précis, un rituel qui effectivement est daté de l'année 1614. Eh bien, nous allons prendre donc la partie 2, selon le plan qui est indiqué, et regarder de plus près ce nouveau rituel romain de la célébration du mariage. Et je voudrais d'abord vous montrer la différence entre justement le rituel tridentin de 1614, donc un rituel médiéval en vérité, hein, et le comparer au rituel actuel. Et puis nous allons regarder justement comment le rituel, qu'est-ce que le rituel nous dit du sacrement du mariage. Tout d'abord, je soulignerai quelque chose. Je partirai de ce qu'était le rituel de 1614, issu du Concile de Trente, et souligner que ce rituel est resté en vigueur jusqu'en 1969, jusqu'à la rédaction du nouveau rituel romain après le Concile Vatican II. Eh bien, le rituel de 1614 contient et codifie le rituel médiéval, celui justement qu'on appelait, qui célébrait le mariage in facie ecclesiae. Et en effet, ce rituel comportait quatre moments principaux. Le premier moment était l'échange des consentements in facie ecclesiae, c'est en face de l'Église, à l'extérieur de l'Église. Je vous le rappelle, l'expression avait aussi une signification comme de l'espace liturgique. On avait par la suite une ratification de la part du ministre, du prêtre, à travers la formule je vous joins en mariage, ego coniungo vobis. On avait par la suite, troisième aspect, la bénédiction nuptiale de l'épouse, donc de la femme. Je vous fais remarquer, retenez cet aspect parce que il avait quelque part un aspect un peu négatif, hein. C'était l'épouse qui devait justement être celle qui générait des enfants. Vous rappelez la phrase de la Genèse terrible, tu vas générer dans la douleur. Et donc il y avait un peu cet aspect de bénir l'épouse en vue justement du fait de donner des enfants au couple. Et puis il y avait la formule de conclusion. Le nouveau rituel, donc, qui est issu de la réforme liturgique de Vatican II, va connaître deux éditions. Je vous l'ai marqué dans ce que j'appelais les étapes. Tout d'abord, on a le rituel latin. Vous vous rappelez désormais comment c'est le jeu de ce rituel, l'édition typique, comme on dit, l'édition latine, donc, qui est intitulée Ordo Celebrandi Matrimonium, le rituel pour célébrer le mariage, édité en 1969, auquel rituel fait suite l'adaptation française, rituel pour la célébration du mariage en 1970. Celle-ci constitue la première édition du rituel du mariage. Mais il y a eu une deuxième édition du rituel. Et ce sont les deux autres dates qui sont marquées. Tout d'abord, le rituel latin, donc, qui garde le même titre, édité en 1990. Et l'adaptation française de cette deuxième édition du rituel latin va avoir lieu en 2005. Et nous le verrons de plus près, elle contient certaines nouveautés. Voilà. Je reprends comment on est arrivé à ce rituel. Tout d'abord, il faut penser que en 63, déjà, la Constitution sur la liturgie, qu'on appelle Sacrosanctum Concilium, au numéro 77-78, avait reconnu la nécessité d'une réforme du rite du mariage, donc une réforme du rituel de 1614, pour nous entendre. Et le nouveau rituel va devenir, à quelque sorte, donne une contribution importante à la compréhension du mariage dans le Seigneur. On essaie de retrouver l'esprit originaire, comme nous l'avons vu, et cela tant au point de vue liturgique qu'au point de vue théologique. Quelle est la célébration du mariage selon le nouveau rituel? Quels sont les aspects nouveaux? Si vous suivez le plan, je suis en train de suivre tout simplement le plan. Il y a en gros trois aspects nouveaux extrêmement importants. Premier aspect. Le nouveau rituel place normalement la célébration du mariage dans celle de la messe. Et donc, du coup, on considère que le mariage doit être perçu dans une dimension d'alliance. Le mariage qui se célèbre entre un époux et une épouse a comme modèle l'alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu, entre Jésus et son Église. Voilà. Et donc, vous l'entendez bien, d'une dimension plutôt juridique, qui était celle du rituel de 1614, l'accent va devenir plutôt théologique. Le mariage est de l'ordre d'une alliance. Deuxième point de nouveauté, l'écologie. Écologie est notre gros mot qui signifie le recueil de prières, et donc les formulaires de prières, les prières que le rituel contient. Eh bien, ces prières, pour les deux tiers, sont des textes nouveaux, et pour le reste, des textes anciens qui sont remaniés. Et donc, vous voyez que là aussi, il y a la volonté d'adapter une certaine théologie du mariage. On peut bien penser que les prières qui étaient celles du Moyen-Âge avaient été porteuses d'une théologie de cette époque-là, alors que les prières que le rituel contient aujourd'hui vont être attentifs à l'évolution de la culture ambiante et donc d'une théologie qui respecte cette culture. Et donc, en ce sens, le rituel met en valeur la richesse du mariage. Dans ces prières, on va regarder de manière positive, je peux dire, le mariage. Troisième aspect des nouveautés, le lectionnaire, c'est-à-dire le livre qui contient les lectures à faire au cours de la célébration du mariage, comporte un choix très large de lectures et il y a une grande variété de thèmes qui sont évoqués et ce lectionnaire, ce livre de lecture, permet de situer le mariage dans le contexte plus large de la vie chrétienne et dans le contexte de l'histoire du salut. Quelque part, il y a une valeur accrue de la dimension sacramentelle du mariage. Quelle est la structure, si vous voulez, du mariage? Je vous ai donné, vous trouverez dans un document, le plan de la célébration du mariage. Vous le trouvez dans un document à part. Vous avez à gauche ce qui s'intitule « Le plan de la célébration du mariage au cours de la messe ». Et puis, à droite, vous avez le plan de la célébration du mariage en dehors de la messe. Cette photocopie, donc, ce document est tiré du rituel lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, on peut constater justement que la célébration du mariage peut advenir au cours de la messe ou en dehors de la messe. Mais vous le voyez bien, la célébration du mariage est toujours au centre des deux possibilités de célébration, qu'elle soit dans la messe ou non dans la messe. Et en gros, comporte toujours quatre éléments qu'on retrouve dans les deux cas. Tout d'abord, un dialogue avec les futurs époux. Vous l'avez dans un cas comme dans l'autre. Regardez la page de gauche et la page de droite. Deuxième élément fondamental, l'échange des consentements. Cet échange advient par une invitation, l'échange des consentements, la réception du consentement. Troisième élément de la structure de la célébration du mariage, la bénédiction et la remise des alliances. Et puis, quatrième élément, la prière universelle, la prière des fidèles, si vous voulez. Alors, vous le voyez que je vous ferai remarquer, regardez la célébration du mariage en dehors de la messe. Après la bénédiction et la remise des alliances, notre troisième élément de la célébration, il y a une bénédiction nuptiale. Vous la voyez, hein? Eh bien, cette bénédiction nuptiale est une des nouveautés principales du rituel édité en 1990 dans son édition latine et en 2005 dans son adaptation française. Et vous voyez que cette bénédiction nuptiale est placée, si je peux dire, dans la colonne dans la célébration au cours de la messe, au cœur même de la liturgie eucharistique. Et donc, effectivement, je vais y revenir tout à l'heure. Pour terminer la partie sur la structure de la célébration du mariage, vous remarquerez, entre autres, on peut remarquer, entre autres, que les époux sont les véritables acteurs de la célébration et que la bénédiction nuptiale, vous voyez, celle qui était autrefois destinée simplement à l'épouse, hein, va devenir la bénédiction nuptiale et de l'époux et de l'épouse. Donc là aussi, il y a un changement extrêmement important. Et que cette bénédiction nuptiale est toujours placée, au moins dans la célébration de la messe, après le Notre Père. Et donc, il y a un lien fort avec l'Eucharistie. Justement, je voudrais m'attarder un instant, vous faire remarquer simplement l'importance de cette bénédiction nuptiale. Je vous disais, c'est une nouveauté absolue, au moins entendue comme une bénédiction qui prend en compte et l'époux et l'épouse. Cette bénédiction apparaît simplement dans la deuxième édition du rituel et effectivement, on peut constater que cette bénédiction est presque d'ordre épiclétique. Désormais, vous connaissez ce mot, c'était on implore, on invoque l'esprit sur les époux. Et donc, on a quelque part voulu ajouter des épiclèses dans la bénédiction nuptiale. Ces épiclèses, si vous voulez, soulignent quoi? Qu'est-ce qu'elles soulignent? D'abord que ces bénédictions sont presque de l'ordre d'une consécration, hein? Comme je reprends le mariage par exemple célébré au cours de la messe, comme on a consacré les espèces du pain et du vin. Ainsi, quelque part, hein, d'une certaine manière, par analogie, on veut dire que par cette bénédiction nuptiale, on consacre l'époux et l'épouse. Comme si, je dis bien, comme si les époux, l'époux et l'épouse devenaient la matière du sacrement lui-même, hein, comme si c'était un pain, du pain, du vin. Hein, voilà. Deuxième aspect très important, c'est que quand on dit épiclèse, on dit toujours épiclèse prononcée, mise sur la bouche du ministre et donc du prêtre. La volonté de cette épiclèse ou l'expression de cette épiclèse est celle de vouloir souligne cette épiclèse. La dimension aussi ministérielle du mariage. Alors j'y reviendrai en concluant cette partie. C'est très important. Troisième aspect, les épiclèses expriment la triple mission qui accompagne et justifie la consécration des époux. Hein? Alors, je vous en ai donné un exemple. En principe, vous avez au verso, mais disons, dans une deuxième page de ce même plan où présentent les deux célébrations du mariage au cours de la messe, en dehors de la messe, tourner la page ou regarder la page qui suit, je vous ai donné l'exemple de la bénédiction nuptiale numéro 3. Eh bien, regardez, donc cette bénédiction, je vous la rappelle, est placée juste après la prière eucharistique, juste après le fait qu'on ait consacré le pain et le vin eucharistique. Voilà. Et le texte dit, je suis donc au numéro 286, vous voyez, il y a un numéro vers la gauche du texte, bénédiction nuptiale numéro 3, voilà. Le prêtre ou le diacre, oui, parce qu'il faut quand même le souligner, pour le mariage, un diacre aussi, pour l'Église catholique, peut être le ministre du mariage. Donc le prêtre, le diacre, les mains jointes, invite l'assemblée à la prière en ces termes ou en d'autres semblables. Je vous rappelle l'importance de, aussi là, de la participation de l'assemblée. Cette prière, à cette prière participe aussi l'assemblée tout entière. Et quelles sont ces paroles? Maintenant, appelons sur ses époux la bénédiction de notre Dieu. Il leur a fait la grâce du sacrement que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour. Et puis là, la prière silencieuse de toute l'assemblée, tous prient quelques instants en silence. Et le texte continue du rituel, hein, cela est pris du rituel. Puis le prêtre ou le diacre, étendant les mains au-dessus des époux, continue. Le geste d'étendre les mains est le même geste qu'on emploie pour la consécration de l'Eucharistie. Moi aussi, on étend les mains aussi sur la tête de l'évêque quand il est plutôt du diacre qui va devenir prêtre. Hein. Donc c'est un geste épiclétique de consécration, voilà. Et le texte dit, Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'a béni, nous te prions humblement pour Pierre et Marie qui sont unis aujourd'hui par le sacrement du mariage. Donc il y a là prise en compte des mariés tels quels. Hein, nous te prions. Le texte renvoie à l'image de la création. Hein, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, qui a voulu leur union et qui l'a béni. Voilà. Le texte continue. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Donc, c'est de l'ordre de la bénédiction. Puis voilà, là, on pourrait penser vraiment à une invocation de l'Esprit. Que la force de l'Esprit-Saint les enflamme de ton amour. Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Que des enfants viennent embellir leur foyer, que l'Église en soit enrichie. C'est une phrase qui est mise entre parenthèses parce que ça dépend des couples, hein, des mariés. Et puis, dans la joie, qu'ils sachent te remercier, dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi, que ta présence les aide dans leur travail, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur, tous. Amen. Vous voyez, la prière va, vous l'avez remarqué, de la Genèse, toi, Créateur du monde, jusqu'à la fin des temps. Qu'ils parviennent entourés de leurs amis dans le royaume des cieux. Il y a là comme une sorte de tension eschatologique, comme si le sacrement était tendu entre l'origine de la création de l'humanité jusqu'à son achèvement à la fin des temps. Et là, vous l'avez vu, on demande dans la première strophe, dans la première partie, la bénédiction de Dieu, l'action de l'Esprit. Hein. Et dans la partie centrale, par contre, tout ce qui est l'aujourd'hui de la vie d'époux et d'épouse, en nommant justement les activités, l'affectivité des uns et des autres. Et puis la dimension plutôt ecclésiale, vous voyez qu'ils participent à la prière de ton Église. Eh bien, cette épiclèse est extrêmement importante, cette bénédiction nuptiale, je vous fais remarquer qu'elle est présente aussi si elle n'est pas célébrée au cours de la messe, mais si le mariage est célébré en dehors de la messe, hein, elle est toujours placée après la remise des alliances. Hein. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que cette bénédiction nuptiale permet de dire à certains théologiens que nous pouvons assister à un certain déplacement de la perception du sacrement du mariage. Je vais m'expliquer très brièvement, et puis si cela n'est pas compréhensible, si nous arrivons à nous connecter pour échanger, ou bien si vous voulez m'écrire, vous pouvez me poser des questions à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, on considérait que le mariage était un sacrement dans lequel l'époux, l'épouse étaient des ministres. Chose tout à fait reconnue dans la théologie catholique et chose, comment dire, aspect que faisait tordre le nez, par exemple, aux orthodoxes, qui considèrent par contre que tout sacrement est toujours un don de Dieu. Donc personne ne peut être le ministre de son propre sacrement. Et effectivement, dans la tradition latine, il y a eu deux courants au Moyen Âge qui considéraient cette première perception. Les mariés sont les ministres du mariage. Mais il y avait un autre courant, en vérité, plutôt franciscain, hein, qui soulignait l'importance quand même de garder la ministérialité au prêtre lui-même, à celui qui célébrait le mariage. Vous comprenez bien que c'est un enjeu important, parce que cela veut dire, quand c'est un ministre qui célèbre un sacrement, que ce sacrement, que ce don de Dieu, ce don vient de Dieu lui-même, que nous ne nous le auto-procurons pas nous-mêmes, voyez? C'est un don de Dieu. Et donc on pourrait dire, voilà, c'est pas moi qui le dis, certains théologiens disent, peut-être que l'introduction de cette bénédiction nuptiale va permettre de considérer le mariage pour ce qu'il est. Un sacrement qui permet de recevoir le don justement d'une vie qu'on échange réciproquement, d'une alliance qu'on échange réciproquement, dont Dieu lui-même est celui qui donne cette grâce de mariage. Hein. Et donc voilà, donc peut-être qu'il y a là un déplacement de la perception du sacrement du mariage au sens qu'il devient, j'avais commencé par dire que ce n'était pas un sacrement comme les autres, mais peut-être que vu sur cette optique, il est un sacrement comme les autres. Hein, voilà. Pour aller plus loin, pour ce sacrement, je me suis permis de vous, à nouveau, une fois de plus, de vous donner des extraits du rituel romain de la célébration du mariage. Vous devez l'avoir dans un autre document, rituel romain de la célébration du mariage. Je voudrais juste vous faire remarquer que ces pages vont effectivement tenir compte. Attendez, je suis en train de tourner mes propres pages. Et j'en trouve une qui n'est pas en ordre, mais je vais m'en sortir tout de suite. Donc voilà, il y a quelques pages qui sont données. Donc vous remarquerez tout d'abord l'importance, si je peux dire, les préliminaires, voilà, de ce rituel, je suis au préliminaire, page 1, souligne l'importance et la dignité du sacrement du mariage. Il commence, comme le prière de bénédiction le disait elle-même, de la création. Voilà, il va développer cet aspect de la création, mais aussi il nomme le sacrement comme étant celui de la nouvelle alliance. Et ce sont ces points de la nouvelle alliance, du sacrement en tant que du sacrement du mariage comme sacrement de la nouvelle alliance va être développé dans le numéro 5 à 11 des pages qui suivent, hein, page 4. 14, excusez-moi, je crois. Voilà, vous avez ça. Les numéros 5 à 11, vous les trouvez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je voudrais juste m'arrêter sur le numéro 7 de la partie dans la Nouvelle Alliance, où il est dit, par le baptême, qui est le sacrement de la foi, l'homme et la femme sont insérés une fois pour toutes dans l'alliance du Christ avec l'Église, de sorte que leur communauté conjugale est assumée dans l'amour du Christ et enrichie de la force de son sacrifice. De cette condition nouvelle, il résulte qu'un mariage valide de baptisés est toujours un sacrement. Donc, du coup, l'idée que la fondamentale, que le mariage a son ancrage dans le baptême, hein, dans le baptême. Puis vous avez une partie qui parle des offices et des ministères. Vous le trouvez à partir du numéro 12, à gauche des textes. Hein. Et là, à nouveau, vous le voyez, le numéro 12 souligne que la préparation à la cérémonie du mariage regarde en premier lieu les futurs époux eux-mêmes, leur famille, concerne l'évêque, le curé, ses vicaires, voilà, le diacre. Et puis toute la communauté ecclésiale. Nous retrouvons là la dimension très large de la ministérialité. On parle aussi de la préparation des futurs époux et le fait de l'importance de la célébration de la pastorale du sacrement en tant que tel. Et puis, numéro 15, on soulignera le fait que pour une bonne préparation au mariage, un temps suffisant est requis. Voilà. Et ensuite, aux choses à remarquer. Je dirais, voilà, vous retrouvez dans le numéro 28, si vous suivez, l'importance de la préparation. On souligne l'idée du caractère communautaire. Du sacrement, qu'il faudrait le célébrer au cours d'une assemblée dominicale. Vous voyez les enjeux, nous l'avons répété plusieurs fois. Pourquoi assemblée dominicale? Parce que le dimanche, il y a toute la communauté rassemblée. Et puis, ordinairement, dit-on, au cours de la messe. On souligne, numéro 31, le caractère festif de la célébration. Et puis, on souligne l'importance de la liturgie de la parole, numéro 33. Donc, vous l'avez remarqué, dans l'une ou l'autre célébration, qu'il y ait la messe ou qu'il n'y ait pas la messe, la liturgie de la parole doit être présente. Voilà. Vous regarderez de plus près ces textes qui sont extrêmement riches et qui vous permettent de comprendre mieux quelle est la richesse de ce sacrement. Pour terminer, je vous disais assez souvent, vous regarderez cela dans le métro, mais je ne sais pas, désormais c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Mais par contre, vous pouvez lire un autre texte que vous avez parmi les documents qui vous sont donnés pour cette partie du sacrement du mariage. Vous trouvez un texte qui, de la mission de France. Ce texte est daté de 2014. 2014, nous dirions aujourd'hui, c'est déjà un peu loin, sont 6 ans. Mais entre-temps est passé le synode sur la famille. Justement, le texte a été pensé en vue du synode 2014 sur la famille. Il est tiré de la documentation catholique. C'est une revue officielle qui met tous les textes les plus importants du magistère, tant de l'Église universelle que de l'Église locale. Eh bien, regardez, pourquoi ce texte? Parce que il tient compte, sans langue de bois, des questions tout à fait actuelles et des enjeux face auxquels notre Église et les pasteurs notamment sont appelés à résoudre ou face auxquels ils se retrouvent. Bon, le texte dit, juste là, le paragraphe initial, une des orientations de la mission de France, votée en 2007, porte sur les questions nouvelles autour de la famille, la vie conjugale, l'éducation des enfants, la relation homme et femme. Et donc, il tient compte, ce texte, dit-il, de la grande diversité familiale. Et essaie de les nommer famille recomposée, famille monoparentale. Voilà, il dit, nous encourage dans chaque famille, il y a des membres qui vivent une réalité conjugale et familiale particulière. Et puis il souligne, la figure traditionnelle de la famille est devenue une parmi d'autres. On pourrait en discuter, mais il est clair que notre propre... vous lirez ce texte. Voilà, je pense que si je vous le donne, c'est parce que je retiens, c'est intéressant. Même si certaines choses peut-être ont évolué, justement quand on parle de divorcer et marier, hein, le synode sur la famille, et l'exhortation post-synodale du pape François a permis, comment dire ça, d'être plus accueillant vis-à-vis de ces situations de mari, de personnes qui vivent un mariage. Un deuxième mariage, une deuxième expérience de couple. Voilà, on est plus attentif à la situation grave, difficile, souvent pénible, douloureuse de divorcer et marier. Le synode, donc je vous disais, a fait des pas en avant, et peut-être ce texte essayait d'aller dans ce sens d'une plus grande prise en compte de ces situations qui sont des situations à la fois de frontières, hein, mais tout à fait ordinaires. C'est la réalité face à laquelle notre propre Église est confrontée. Je m'arrête là pour la question du mariage et je vais tout doucement, je suis, pour tout vous dire, je suis dans ma chambre au monastère ici à Paris, en face d'un arbre, parce que nous avons un jardin qui entoure une petite partie qui est devant le monastère, et donc je suis au calme, parfois j'entends les oiseaux, et donc je vous disais, je change de dossier et je prends le dossier, si je peux dire, du sacrement de l'onction des malades, que je vais essayer donc de terminé dans cette séance d'enregistrement, et donc ça nous permet aussi de rentrer dans l'ordre. Vous savez que dernièrement nous tuilions les différents sacrements. Pour le 17 mars était prévue la séance sur l'onction des malades, nous allons la présenter entièrement aujourd'hui pour parler le 24 mars des funérailles. Voilà, alors quand je me préparais pour faire cet enregistrement, naturellement, j'étais comme vous, tout pris par cette évolution assez rapide, hein, que j'ai remarquée aussi en Italie et maintenant en France, des choses qu'il faut faire, comment il faut se comporter face à cette épidémie qui apparaît de plus en plus comme une situation grave et difficile pour notre monde aujourd'hui. Eh bien, je pensais que c'était presque, si je peux me permettre d'exprimer comme ça, presque providentiel que nous arrivions à traiter de ce sacrement, l'onction des malades, et puis des funérailles la prochaine fois, en un moment où, et j'aimerais bien que nous traitions de ce sacrement et des funérailles en pensant plus particulièrement à ceux qui vivent dans leur propre chair cette expérience, hein. Donc la condition d'être malade, d'être souffrant, d'être amené à l'hôpital. Et surtout, je le sais là pour la situation en Italie, malheureusement, la condition de ces malades graves, je dirais, qui doivent assez souvent mourir seuls dans un hôpital parce que confinés dans des services d'hôpital qui ne peuvent pas permettre de faire entrer des personnes. Hein. Donc, voilà. Nous parlons du sacrement, mais pensons à la situation actuelle tout en parlant. Voilà. Donc, Vous avez pour ce cours à nouveau un plan. Et puis, je vous ai donné à nouveau, il me semble, oui, un extrait du sacrement pour les malades et un tableau qui essaye de résumer la possibilité, la manière dont on peut célébrer ce sacrement pour les malades. Regardez bien le plan. Le plan est intitulé L'onction des malades. Il y a donc le plan comporte, comme j'essaie de dire, faire toujours une introduction, puis on a la partie historique, vous la reconnaissez, c'est la première partie, son évolution, c'est-à-dire l'évolution de l'onction des malades au cours de l'histoire, et puis une partie sur le rituel. Hein, voilà. Je commencerai donc par l'introduction et souligner comment on a pu, il y a déjà une évolution dans la perception de l'homme et de la maladie. En effet, jusqu'à la fin du XVIIe siècle et jusqu'au début du et encore au début du XVIIIe siècle, disons entre voilà, c'est dans cette période, la maladie était uniquement définie du point de vue subjectif. On estimait, si vous voulez, la gravité du mal d'après l'état où est réduit le malade. Et la maladie, à ces époques-là, 17e, 18e siècle, la maladie concernait assez souvent des jeunes. Hein. Voilà, on mourait jeune autrefois. Eh bien, en raison de la durée habituellement brève de la maladie, on n'avait pas tendance à soigner comme on fait aujourd'hui. Les jours que nous sommes en train de vivre nous montrent comment on fait tous les efforts pour soigner, hein, face à une épidémie, par exemple. Mais à l'époque du XVIIe, avant le XVIIe et puis encore au XVIIIe siècle, la durée de la maladie donc était brève. Il n'y avait pas de traitement spécialisé. Et le malade était la plupart du temps soigné à la maison, soigné à la maison. Et donc, soulignons ceci, le malade ne connaissait pas l'épreuve de la séparation, de la solitude, de l'isolement. Je veux dire que quand on est malade aujourd'hui, si on est gravement malade, on est amené à l'hôpital et on n'a pas tout le temps le réconfort de la famille. Voilà. Eh bien, un tournant décisif va être pris au XXe siècle et puis encore plus au cours de ces 50 dernières années qui sont marquées par le développement extraordinaire de la médecine, de la chirurgie, des centres hospitaliers. Eh bien, cette situation nouvelle entraîne au plan social et culturel des conséquences importantes. La maladie est devenue une des préoccupations les plus constantes, les plus angoissantes de l'homme contemporain. Parfois, elle devient même un état de vie prolongé, ou bien devient un état de vie permanent. C'est pourquoi aujourd'hui, la maladie n'a plus comme autrefois une étroite connexion avec la mort. Encore que, je le répète, ces jours-ci, cela ne semble plus revenir en surface à nouveau. Hein. Une maladie, une épidémie qui peut conduire à la mort. Hein. Mais bon, ce n'est pas le cas dans des situations normales. Hein. Et donc, aujourd'hui, être malade ne signifie plus courir un danger de mort. On peut rester longtemps malade et donc ne pas être confronté nécessairement rapidement à la mort. Et donc on peut retrouver là une problématique théologique. C'est celle qui prend en compte deux orientations. Cette problématique peut prendre en compte deux orientations. L'une, la première orientation, considère le sacrement comme ce qui parachève la pénitence. C'est-à-dire, là, nous avons une vision, justement, peut-être dépassée, hein, du sacrement. Et donc, quelque part, on pense, dans cette vision-là, qu'il s'agit de guérir le pécheur chez le chrétien qui est gravement malade. Donc, une vision qui rapproche la maladie au péché. Il y a une autre orientation qui considère le sacrement des malades comme une sanctification, comme une possibilité qui donne aux malades de se sanctifier. Eh bien, c'est cette orientation, la deuxième donc, qu'a prise en compte Vatican II au numéro 73 de la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Et donc, cette orientation élargit l'administration du sacrement aux malades qui commencent à être en danger de mort. Donc, le sacrement n'est plus donné seulement en fin de vie, ce n'est plus l'extrême onction, comme on l'appelait, mais c'est plutôt l'onction des malades. Et donc, on prend en compte un état particulier de la vie qui est celui de la maladie. Et donc, il a une vision théologique et pastorale plus large que celle qu'en donnait le rituel avant le Concile Vatican II. Très rapidement, je voudrais juste vous montrer l'évolution au cours de l'histoire. Justement, l'évolution de ce sacrement au cours de l'histoire va nous faire apercevoir davantage ce déplacement d'une perception du sacrement comme étant donné en fin de vie, vers un sacrement qui est par contre conçu comme étant le geste du Christ lui-même par la main du ministre sur le malade. Voilà. Disons qu'il s'éloigne de la mort et reste plutôt du côté de la maladie. Donc, quelle est son évolution au cours de l'histoire? Tout d'abord, les données bibliques. La perception, mais là, je ne vais pas trop m'étendre, mais vous le savez bien, hein, le Christ, l'un des actes les plus impressionnants, je dirais, que les évangiles rapportent, c'est le Christ qui guérit les malades. En effet, cette bonne nouvelle est annoncée, hein, par le signe des guérisons que le Christ lui-même accomplit. Eh bien, le Christ réalise ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Dieu lui-même guérit. Eh bien, les miracles de guérison accomplis par le Christ sont le signe que le royaume de Dieu est déjà là, que la maladie peut être vaincue, que la victoire de Dieu sur le péché et sur ses conséquences est déjà commencée. Généralement, les évangiles, vous verrez, vous pouvez le regarder vous-même, hein, ouvrez l'évangile, on met en relation le pardon des péchés et les guérisons. Et donc le Christ écarte la conception éthique qui attribue à une faute l'origine de la maladie. Nous allons l'entendre, cela, dans l'évangile que sera proclamé dimanche prochain, le quatrième dimanche du carême, l'évangile de l'aveugle né. Justement, dans cet évangile, Jésus exclut explicitement le rapport causal entre le péché et la maladie. C'est une nouveauté absolue dont nous avons parfois du mal à nous, à nous éloigner. Qu'est-ce que font les premières communautés primitives? Je suis encore dans les données bibliques. Eh bien, l'expérience du Christ devient l'expérience de l'Église qui prolonge les gestes de guérison de Jésus. Et donc, l'Église, en prolongeant ce geste de Jésus, affirme la présence du royaume et met en évidence la force libératrice du Christ lui-même. Paul présente le charisme de guérison comme un service pour l'édification de la communauté. Nous le retrouvons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 28. Mais c'est un texte qui est fondamental pour ce sacrement, qui est celui de Jacques, de la lettre de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16. Ce texte, ce passage, va devenir le centre de la réflexion chrétienne ultérieure et va constituer le point de référence pour la pratique sacramentelle de l'onction. Une fois vues les données bibliques, nous pouvons regarder du côté de la tradition liturgique. Eh bien, pour la tradition liturgique, nous pouvons constater d'abord entre le 1er et le 4e siècle, ces siècles sont caractérisés par un manque relatif de sources explicites et directes du sacrement des malades. On pourrait dire qu'on est encore du côté de la lettre de Saint Jacques, qui parle tout simplement d'imposer les mains. Eh bien, à cette époque, 1er et 4e siècle, parmi les sources liturgiques que l'on a coutume d'examiner, il y a celle de la tradition apostolique. Vous vous rappelez ce texte que auquel je fais allusion plusieurs fois, ça fait partie des textes fondamentaux pour comprendre l'évolution des rites. Eh bien, dans la pratique décrite dans ce texte, l'élément central est la bénédiction de l'évêque durant la célébration eucharistique de l'huile qui va être destinée aux malades, et il est recommandé dans ce texte à l'évêque de visiter personnellement les malades. Et la fonction des diacres, c'est assez intéressant, je parle aux diacres présents parmi vous, le texte dit que les diacres doivent signaler à l'évêque où sont les malades. Vous voyez, donc il y a un rôle très beau du diacre, mais c'est l'évêque qui est responsable des malades et c'est lui qui doit les visiter. Et si on dit qu'il doit bénir une huile destinée aux malades, ça veut dire que probablement on oignait les malades avec cette huile. Voilà tout ce que nous savons au 1er et 4e siècle. Entre le 5e et le 7e siècle, dans cette époque, donc, les témoignages deviennent plus nombreux. Il s'agit encore de formules de bénédiction d'huile. Donc, ces textes sont en continuité avec la période précédente. Eh bien, ces textes insèrent la formule de bénédiction de l'huile à l'intérieur de la prière eucharistique. C'est assez intéressant. Comme on consacre le pain et le vin, ainsi, à cette époque, on consacrait l'huile destinée aux malades au cœur de l'Eucharistie. D'autres sources nous permettent de saisir concrètement la pratique de l'onction durant ces siècles. Et généralement, on sait que les fidèles malades pouvaient être oints avec l'huile sainte du Saint-Crème aussi. Cette huile était consacrée par l'évêque et il était permis non seulement aux prêtres, mais aussi à tous les chrétiens de l'utiliser et même de soindre soi-même et de oindre leurs proches. Vous voyez, je vous avais parlé quand on avait parlé de l'Eucharistie du fait que dans l'Église ancienne, on avait la coutume d'apporter chez soi l'Eucharistie et de se auto-communier soi-même parce qu'on était en situation de persécution, parce qu'on était loin de l'Église, vous voyez. Et c'est intéressant de remarquer que aussi pour lui, guérissant les maladies ou soignant les maladies, advient la même chose. On va à l'Église, on prend peut-être le pain eucharistique, on le ramène chez soi, mais on ramène chez soi aussi l'huile qui va être destinée pour soi, pour soi-même, et pour les malades de la maison. Entre le 8e et le 12e siècle, qu'est-ce que nous pouvons constater? Les sources vont être très nombreuses. Voilà, et le centre de gravité du sacrement n'est plus la bénédiction d'huile. Nous avons vu que jusqu'à maintenant, c'était la bénédiction d'huile qui était le centre. Hein. Mais le centre va devenir l'administration de l'onction. Et donc, à cette époque, entre le 8e et le 12e siècle, apparaissent les premiers rituels ou rituels en vue de visiter et de oindre les malades, qui sont caractérisés par une grande variété de prières et de gestes, par une grande liberté par rapport au nombre et à l'emplacement des onctions, par une multiplicité de rites et de prières. Et là, on souligne à cette époque, donc entre le 8e et le 12e siècle, le rôle important des prêtres. En effet, les clercs vont assumer un rôle de plus en plus déterminant. Désormais, l'onction des malades est réservée aux prêtres. Je vous rappelle, nous l'avons entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, autrefois on permettait aussi aux laïcs de oindre. Mais là, désormais, on souligne que cette onction est réservée aux prêtres. On souligne aussi de plus en plus les effets spirituels de l'onction des malades. Et à partir du Xe siècle, surtout, on envisage l'aspect de la purification du mal. Et donc, nous approchons de la vision qu'on avait jusqu'il y a 60 ans, mais je pense qu'encore dans notre imaginaire, cela existe. On peut constater que l'évolution la plus importante à partir du Xe siècle et la plus significative se fait par le déplacement du rite de l'onction vers le moment de la mort. Vous voyez, on rapproche ce sacrement vers le moment de la mort. Et ce glissement se généralise et est causé par l'association de fait de l'onction avec la pénitence au moment de la mort et avec le viatique. Et donc, voilà, la pratique va aboutir à la dernière onction, qui va être nommée ou dite extrême, l'extrême onction. C'est celle que nous avons connue et ça nous échappe encore aujourd'hui de dire, ah, mais l'extrême onction, justement, nous verrons la différence, la manière dont le Concile a perçu qu'il fallait changer cette vision-là. Mais nous n'avons pas encore terminé l'évolution de la tradition liturgique. Nous avons vu jusqu'à maintenant les époques qui vont jusqu'au XIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe entre le XIIe et le XVIe siècle? Vous êtes désormais toutes et tous capables de comprendre que, oh là là, XIIe, XVIe siècle, des choses vont se crisper d'une certaine manière à cause de la culture ambiante, de la société, d'une vision de l'Église particulière, d'une cléricalisation des sacrements, de la critique protestante, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le XIIe et le XVIe siècle? on a la tendance à ajouter l'onction au sacre, l'onction des malades, au sacrement de la pénitence. Donc vous voyez, on unit ces deux sacrements. Et elle est d'ailleurs déjà courante dans la pratique sacramentelle de cette époque. Voilà. Et donc, le lien avec la discipline pénitentielle va être évident. Le danger de mort devient la condition préliminaire pour recevoir le sacrement. Et donc, on s'oriente vers un type unique de rituel qui contient les rites en situation de mort et qui vont être regroupés selon leur succession. Dernier, c'est pas le dernier, l'avant-dernier passage de cette évolution est celui qui advient entre le XVIe et le XXe siècle. XVIe siècle, réforme protestante, concile de Trente, contre-réforme, un monde catholique. Eh bien, le concile de Trente, bien qu'il partage les options doctrinales de la théologie scolastique, donc du Moyen-Âge, qui considère l'onction des malades comme le sacrement des mourants, eh bien, le concile de Trente va prendre des distances par rapport à l'aspect unilatéral et exclusif de cette théologie. Il considère en particulier que l'onction des malades est ce qui achève non seulement la pénitence, mais aussi toute la vie chrétienne en tant que pénitence continuelle, lutte incessante contre le péché. Et donc, le rituel de l'onction consacre pratiquement la pratique liturgique du sacrement telle qu'elle s'est fixée au Moyen-Âge et souligne son caractère pénitentiel, son lien avec la mort, même si certains textes liturgiques expriment la thématique de l'ancienne tradition. Dernière évolution, dernier état de l'évolution, parce que peut-être que nous pouvons penser que, comme nous avons vu qu'il y a eu des évolutions tout au cours de l'histoire, notre propre situation actuelle va évoluer par la suite, on verra. Nous ne verrons pas peut-être justement. Mais nous en arrivons là au Concile Vatican II. Eh bien, la Constitution sur la liturgie, au numéro 73, va parler désormais de l'onction des malades. En effet, le Concile ne prétend pas donner une doctrine sur l'onction des malades, mais bien, il désire plutôt de réviser les rites de celle qu'on appelait jusque-là l'extrême onction. Et donc, le fait que ce texte de la Constitution sur la liturgie en 1963 appelle ce sacrement onction des malades, c'est le numéro 73 que je vous ai marqué dans le plan, eh bien, le fait qu'il appelle onction des malades, cela fait que le Concile prend d'une certaine manière position dans ce débat. En outre, en ce qui concerne le sujet du sacrement, les pères conciliaires ont voulu favoriser l'interprétation la plus large possible du malade en danger de mort, afin d'éviter la casuistique, les inconvénients qu'entraînait pour la pastorale la pratique qui disait qu'il fallait donner le sacrement juste avant de mourir. Vous savez que, surtout au Moyen-Âge, mais dans les siècles aussi d'après, il était difficile de savoir quand, si une personne était vraiment morte ou n'était pas morte. Il y avait toute une sorte de casuistique, d'étude de cas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait le nouveau rituel en langue? D'abord, je vous fais remarquer, on aura le nouveau rituel en langue latine en 72. Puis on aura le nouveau rituel, l'adaptation française de ce rituel en langue latine en 1977. Et je vous fais remarquer hein, le titre à nouveau. C'est à nouveau, je remarque, le génie français, le génie de la traduction. Hein. Le titre du rituel est celui-ci, Sacrement pour les malades, pastoral et célébration. Vous voyez, à nouveau, on ne se limite pas de dire rituel du sacrement des malades, hein, mais on dit sacrement pour les malades, hein, en faveur des malades, et on y ajoute une sorte de sous-titre, mais qui n'en est pas vraiment un, pastoral et célébration. Ça veut dire que quand on dit pastoral, ça veut dire que je prends le soin de m'occuper des malades, hein, je fais attention à eux. Ce n'est pas un moment précis de la vie, mais c'est toute la vie d'un malade. Et on dit, on appelle ça des célébrations au pluriel. Donc il n'y a pas qu'une manière de célébrer le sacrement des malades. Et en effet, si je passe donc au rituel des sacrements pour les malades, pastorales et célébrations, quelles sont les caractéristiques principales? D'abord, on peut souligner que le titre du nouveau rituel manifeste déjà son esprit. L'onction des malades est désormais insérée dans l'ensemble de la pastorale des malades. Et cette pastorale a une dimension ecclésiale très importante. C'est l'Église qui s'occupe des malades, de ces malades. Hein. Et donc c'est toute l'Église, l'Église tout entière, obéissant au Christ, qui doit avoir de la sollicitude pour les malades. Et donc vous voyez, c'est là, à la différence du rituel tridentin, ce ministère pastoral n'incombe pas uniquement aux prêtres, mais à toute la communauté chrétienne. Je vous propose donc de regarder cela, si vous le voulez bien, à partir des prénotandats, des notes doctrinales et pastorales du rituel. Je vous ai à nouveau photocopié un extrait de ce rituel. Et vous pouvez le lire, hein, donc vous le trouvez dans un des dossiers qui est en annexe dans votre message ou dans le site du CIF, je crois. Voilà, la page de couverture, c'est comment pour les malades, pastoral et célébration, vous avez tout le sommaire, vous voyez, on a deux grandes parties quand je regarde la structure du rituel. Une partie pour les malades, avec des notes doctrinales et pastorales que je pense vous avoir mis en entier. Hein. Vous avez toutes les pages de ces notes doctrinales et pastorales, oui, c'est ça. Et puis vous avez donc les différentes manières de cette pastorale pour les malades. Les visiter, leur apporter la communion, leur donner l'onction, hein, voilà, et voilà. Ou bien il y a la partie pour les mourants, et donc la manière dont on célèbre le viatique, hein, ou bien des indications pour célébrer le sacrement en danger prochain de mort. Voilà. Et bien, après le document continue avec, vous voyez qu'il y a à nouveau pour ce rituel, le pape Paul VI a écrit une constitution apostolique sur le sacrement de l'onction de malade, c'est à page 5 du petit dossier que je vous ai donné. Le pape rappelle, regardez, que l'onction des malades, selon la foi et l'enseignement de l'Église catholique, est un des sept sacrements du Nouveau Testament. Il dit comment cela est a évolué dans l'histoire, notamment des conciles, comment il a été retenu, et page 6, regardez vers le milieu de la page, le paragraphe qui commence par « En révisant le rite de l'onction des malades, il fallait tenir compte de tout ce qui précède afin de mieux adapter aux nécessités de notre époque ce qui est sujet à changement. Hein, » sujet à changement. Hein. Et donc voilà, il va montrer quelles sont les modifications. Et donc, voilà, tout est. Vous pouvez lire cette lettre apostolique, cette constitution apostolique du pape Paul VI. Et puis, nous en arrivons donc aux notes doctrinales et pastorales, page 11. Et là, effectivement, regardez le texte, page 11, le numéro 1, toujours les numéros sont donnés à gauche du texte, part de l'idée d'un monde affronté à la maladie. Je vous disais tout au début de cette partie comment c'est très actuel ce que nous sommes en train de faire, hein. Et il serait bon pour nous tous, pas que pour vous qui m'écoutez, mais pour moi aussi, de relire ces textes. Mais voilà, le premier paragraphe, le numéro 1, dit « L'existence de la souffrance est une des grandes questions posées à la conscience des hommes. Elle est parfois perçue comme un scandale. Cette souffrance révèle des formes diverses. La maladie n'est que l'une de ces formes. Mais surtout, si elle est grave, elle prend un relief particulier. Elle rappelle que la condition mortelle est une dimension de la vie humaine. » Et puis donc, deuxième dimension, perception, le fait que le chrétien vit la maladie avec le Christ, ou face à la maladie, il vit cette maladie avec le Christ. Et puis, numéro 3, page 12, partie du numéro 7, la dimension ecclésiale du sacrement, donc la communauté chrétienne et les malades. Et puis, regardez page 14, numéro 4, sur les chemins des malades, une présence fraternelle et les sacrements. Et là, nous voyons, il dit, hein, c'est très important, parce qu'on voit là bien qu'il y a plusieurs manières de célébrer le sacrement des malades. Là, il dit, le malade atteint par l'épreuve de la maladie, luttant contre elle, est aidé de multiples manières, par son entourage, le personnel soignant, la communauté chrétienne. Parmi ces gestes d'aide et de soutien, des signes particuliers lui sont proposés, hein, qui attestent d'une manière spéciale l'amour de Dieu pour lui et agissant en lui, les sacrements. Et donc, voilà les différents aspects, la visite des malades, la communion des malades, l'onction des malades, le viatique, le sacrement, un malade en danger de mort, la confirmation en danger de mort, la recommandation des mourants. Je vous laisse de nouveau lire. Vous remarquerez, parce que peut-être que l'un et l'autre d'entre vous est chargé de visiter les malades ou d'apporter la communion aux malades. Je vous ai mis aussi les extraits des notes doctrinales et pastorales qui peuvent vous aider pour vivre mieux ce ministère. Eh bien, je voudrais, pour terminer, que nous regardions ensemble. Vous retrouvez à nouveau un tableau qui vous est donné dans le site du CIF, qui essaie de voir comment on célèbre ce sacrement. Vous l'avez remarqué, donc je disais, il y a communion des malades et onction des malades. Je vous rappelle que la communion des malades, il y a beaucoup de laïcs qui peuvent la porter aux malades. Donc tout ce que vous voyez là pour cette célébration revient à un ministère laïque, je dirais, qui est appelé à apporter la communion des malades. Par contre, naturellement, l'onction des malades en tant que telle est réservée seulement à un ministre ordonné. Et voilà. Mais j'insiste pour dire que le geste sacramentel est large là. Hein. Ce n'est pas parce que l'onction des malades est réservée à un ministre ordonné que la communion des malades est moins importante. Je dirais que presque la communion des malades est propédeutique à l'onction des malades. Hein. Le laïc qui apporte la communion aux malades, ou le diacre qui apporte la communion aux malades, justement, vit une dimension diaconale très forte, hein, vous voyez, un peu comme ce qui est indiqué dans la tradition apostolique, c'est que le diacre devait rappeler aux prêtres où étaient les malades, voilà. L'onction des malades, par contre, a une dimension ecclésiale plus forte, c'est pas que l'autre ne l'a pas, mais elle est plus visible, voilà. Mais d'abord, regardez, les deux situations comportent une même structure de célébration, hein. Il y a l'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie du sacrement, la conclusion. C'est la colonne de gauche du tableau que j'ai en face de moi et que vous pouvez retrouver vous-même. Et puis donc, pour la communion des malades, il y a toujours une salutation. Il y a un geste fait avec l'eau bénite, une signation, hein, qui généralement est faite, on pourrait dire, sans huile, hein. Donc elle est faite avec. On signe, on peut signer le malade, on peut se signer soi-même et faire signer le malade, voilà. Il y a une préparation pénitentielle, hein, qui n'est pas d'ordre sacramentel, hein, qui n'est pas d'ordre sacramentel. Puis il y a toute la liturgie de la parole avec la lecture biblique. Le laïc peut donner une explication. Je reporte la communion malade, je peux dire une parole sur ça ou échanger la lecture biblique que j'ai faite avec le malade et avec un moment de silence pour faire déposer la parole. Et puis une prière universelle qui ouvre le malade et la situation ou le lieu où le malade vit, qu'il soit à la maison, qu'il soit à l'hôpital, a des dimensions beaucoup plus larges, voyez, qui fait sortir le malade de sa situation. Il est presque comme un épicentre. Hein. Et puis, vous voyez, le Notre Père, le rite de la paix, la communion, la prière. Si je me tiens dans la colonne de la communion des malades. Mais vous voyez comment il y a un parallèle avec l'onction des malades. Si vous regardez, si vous avez un œil vers la droite, vous voyez qu'il y a les mêmes rites. Naturellement, pour la communion des malades, il n'y a pas le centre qui est celui de l'onction, n'est-ce pas? Et puis la bénédiction et la salutation. Pour l'onction des malades, nous retrouvons la salutation, le rite de l'eau bénite, l'assignation. Il y a des prières, des monitions. Les monitions, je vous rappelle, ce sont ces paroles qui sont dites pour inviter l'assemblée à faire quelque chose ou à se mettre en condition de vivre quelque chose. Préparation pénitentielle, on a à nouveau le moment de la liturgie de la parole, et puis nous avons la liturgie du sacrement. Et vous voyez, c'est là qu'on a une multiplicité de célébrations au pluriel, ce qui justifie le titre de l'adaptation française. Hein. On peut célébrer le sacrement de l'onction des malades avec, dans le cadre d'un groupe. Hein. Et donc, il y a là, cette forme souligne davantage la signification de l'huile et du sacrement. Par contre, on peut avoir une autre forme, toujours dans une célébration communautaire, qui va développer davantage la prière litanique. Il peut y avoir une célébration plutôt festive, hein, dans laquelle on commence par l'imposition des mains. Et puis, il peut y avoir le cas où le malade, ou les participants, parce que peut-être qu'on est dans des situations de non-croyance, ou de, voilà, et dans laquelle il n'y a aucune réponse de la part du malade, ou parce qu'il n'est pas capable de répondre, ou parce que les participants qui entourent le malade ne sont pas croyants, comme je vous disais. Voilà. Et puis donc, après l'une de ces schémas, au choix, comme vous le voyez, selon les situations du malade et de ceux qui entourent le malade, on aura la litanie, l'imposition des mains, vous voyez là le geste qui vient de la lettre de Saint Jacques. C'est le geste, je dirais presque rituel originaire. Une action de grâce avec la bénédiction de l'huile, l'onction, la prière après l'onction, et puis nous retrouvons le même rite qu'on avait retrouvé auparavant. Parfois, on me demande, mais on pourra en parler demain, si nous arrivons à nous connecter, n'est-ce pas? Sinon, vous m'écrivez et on peut échanger, ou bien, voilà, un autre moment aussi. On me demande parfois, les laïcs qui sont censés exercer ce ministère, hein, me demandent, mais comment je vais? Je ne vais pas faire la salutation. Je dis toujours, tout ce qui est plus naturel possible est le plus sacramentel. Par là, je veux dire, quand on dit salutation, ne pensez pas à des formules liturgiques. Pensez au fait qu'on s'approche du malade comme quelqu'un qu'on connaît généralement, comme quelqu'un qu'on rassure, comme quelqu'un dans une dynamique d'amitié, de fraternité, hein, de communion. Hein, donc ça, la salutation peut être embrasser la personne. Hein, donc, pas en ce moment-là, sûrement. Naturellement, il nous interdit de nous embrasser. Mais voilà, il y a plusieurs formes pour dire le fait qu'on s'approche de quelqu'un. Même en ce qui concerne l'eau bénite, on n'est pas obligé d'arriver avec le goupillon, le seau d'eau bénite, vous voyez. Non, souvent on peut tout simplement prendre un pot joli de la maison, y mettre de l'eau, la bénir. La bénir, un laïc peut bénir de l'eau, hein, et puis se signer réciproquement, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. L'assignation, je vous disais, à la fois je peux me signer sur moi-même, je peux en geste de rapprochement signer le malade, voilà, ainsi de suite. Pour terminer, vous l'avez compris, j'espère de l'avoir montré, et que les textes vous le montrent, si vous voulez le prolonger, ce sacrement est vraiment le geste, vous voyez, est loin d'être le sacrement de la mort, vous voyez. C'est plutôt le sacrement de Jésus qui s'approche de celui qui est dans une condition de malade, hein, et il est le signe du Dieu qui est parmi nous, et qui vit au milieu de nous et qui s'assure de la vie de celui qui souffre. J'ai conclu pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous regarderons ensemble tout ce qui concerne les funérailles. Mais à nouveau, je vous invite tout simplement à penser à ce sacrement des malades, mais aussi les funérailles comme des situations très, très concrètes en ces jours difficiles qui sont les nôtres, hein. Et donc je vous salue fraternellement, et voilà, si nous ne nous voyons pas, et avec un peu de regret de ne pas nous voir, sachant que c'est pour un plus grand bien et que nous nous verrons bientôt et meilleur, voilà, à la prochaine fois donc. Prenez bien soin de chacun de vous. Voilà.